Père Jean-Baptiste Gansa, vous êtes supérieur régional des Jésuites du Rwanda et du Burundi. Vous organisez du 20 au 22 juin une conférence ayant pour thème Réinventer la théologie post-synodale au Rwanda, défis et espoirs. Quel est l'objectif d'abord de cette conférence, Père Gansa?
Nous avons pensé, comme Compagnie de Jésus, qu'en cette année où le pays célèbre le 25e anniversaire du génocide, que nous pouvions apporter notre contribution en organisant une rencontre au niveau international, des théologiens de tous bords. Il y a des Africains, il y a des Rwandais, il y a des évêques, il y a aussi des laïcs, il y a des hommes et il y a des femmes, pour échanger, d'abord faire une évaluation ces 25 années, et ce que l'Église a fait, a accompli dans le processus de réconciliation et de guérison des blessures, mais aussi réinventer la théologie, comment parler de Dieu à ce peuple endolori et comment prêcher le Christ, prêcher l'amour sur cette terre ensanglantée. Et c'est ça l'objectif, c'est être présent avec le peuple rwandais et apporter notre contribution à ce processus de réconciliation et de réinvention de la théologie.
Dans le thème de la conférence, on parle de défis et espoirs ou espérances. Pouvez-vous énumérer, par exemple, quelques défis et espoirs?
Le premier défi, c'est la perte de foi. C'est cette conscience de l'absence de Dieu et qui sort d'une douleur extrême. L'un des effets du génocide, c'est la question sur Dieu. Les victimes se posent des questions sur Dieu. Quel est ce Dieu qui est silencieux? Quel est ce Dieu qui laisse le mal vaincre? Et du coup, le premier défi, c'est le défi de la foi. Comment prêcher sur Dieu, comment prêcher sur son amour, sur sa puissance, à ce peuple qui a appelé, s'est vu massacrer pendant 100 jours. Et c'est ça le plus gros défi. L'autre défi, c'est la pauvreté matérielle qui a suivi. Les victimes se sont retrouvées avec des propriétés détruites complètement. Des familles n'avaient plus de main-d'œuvre parce que papa, maman partis. Certains enfants étaient abandonnés. Ils ont vécu dans des orphelinats. Et plus tard, évidemment, le gouvernement a encouragé l'adoption. Cela a résolu partiellement le problème des orphelins. Mais donc, il y a une certaine pauvreté matérielle qui a suivi. Et il est toujours difficile de prêcher à un ventre creux. Le gouvernement a fait beaucoup de choses. Il y a des collaborateurs internationaux qui ont fait beaucoup de choses, surtout en matière de bâtiments, de maisons, d'habitats pour les victimes, les rescapés du génocide. Mais il y a aussi la question des études des enfants orphelins qui n'ont plus de parents. Donc ça, c'était un défi. Je crois que la pauvreté a été réduite, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont vulnérables à cause du génocide. Donc ça, c'est un autre défi qui est devant nous. Donc la question de justice, il ne suffit pas de prêcher Dieu, il faut aussi poser des gestes qui donnent de l'espérance aux rescapés, au pays entier. Parce que même le pays, comme nation, a souffert, hein. Il a perdu des bras, même ceux qui sont en prison, c'est des bras perdus. Ils auraient pu construire le pays, et ceux qui sont en prison, ceux qui ont fui, qui sont à l'étranger, c'est des enfants du pays qui auraient pu apporter leur contribution à l'édifice d'un Rwanda nouveau où l'harmonie et la paix régneraient. Alors, un défi aussi qui est là et qui reste, même si on fait des progrès, c'est la question de l'unité. L'unité entre les deux groupes, les rapprocher, prêcher de sorte qu'ils se sentent encore des frères, prêcher sur le pardon que les victimes doivent accorder, le pardon que le coupable, les génocidaires doivent demander. Donc ça, c'est aussi un défi à l'Église, aux théologiens, aux hommes de Dieu et aux hommes et aux femmes de Dieu. Voilà un peu quelques défis que je vois. Il y en a sans doute
Et
d'autres.
de l'autre côté, malgré ces défis, il y a quand même des signes d'espoir ou des espérances, comme on les
Oh oui,
mentionne.
il y a beaucoup de signes d'espoir, hein. Ceux qui vivent sur place, ils le voient. Je crois que l'un des thèmes de cette conférence internationale, c'est voir les miracles que Dieu a opérés depuis le génocide, ce que l'on peut voir, qui sont visibles. Mais ce que aussi l'homme de Dieu devrait pouvoir voir, cette main invisible de Dieu, et prêcher pour rassurer les Rwandais, en disant, écoutez, ne vous laissez pas emprisonner par la tristesse, par l'échec de l'humain et l'échec de l'amour. Voyez aussi ce que Dieu a fait. Voyez dans les 25 années ce que Dieu a accompli parmi nous pour reprendre la foi, pour nourrir encore l'espérance. Je crois que c'est un thème qui va être très intéressant parmi d'autres d'ailleurs.
Cette conférence sur le Rwanda post-génocide dépasse la dimension seulement régionale ou du Rwanda, vu le nombre de participants, les intervenants. Vous avez d'ailleurs dit à l'introduction qu'ils viennent non seulement du Rwanda, mais de l'Afrique aussi, de l'Europe et de l'Amérique. Comment est-ce que vous pouvez interpréter cette solidarité?
Nous partons d'une conviction que l'humanité est une et que donc le drame, la tragédie qu'il y a eu au Rwanda il y a 25 ans a bien entendu démoli la nation, elle a fait des victimes sur le sol rwandais, mais c'est une blessure à toute l'humanité. Au niveau des Nations Unies, ils ont créé un tribunal international pour montrer justement cette solidarité en disant c'est l'humanité qui a été attaquée, c'est la société des nations qui a été attaquée. À ce niveau-là, du point de vue politique, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais au niveau de l'Église, l'Église est une. L'échec de l'évangélisation au Rwanda remet en question l'évangélisation de toute notre Église. L'Église universelle, c'est l'humanité qui vient au secours et qui vient parler de ce qui est arrivé au Rwanda, mais qui était arrivé ailleurs avant l'Holocauste, le génocide contre les Juifs en Arménie et ailleurs. Il y a eu beaucoup de génocides. Le Rwanda est le dernier en date. Et chaque fois qu'il y a une tragédie pareille, l'humanité entière, la communauté internationale doit se retrouver. La communauté des intellectuels des États-Unis, de l'Europe, de partout, toute personne a sa contribution à apporter. Et c'est dans ce sens que nous avons invité des penseurs, des chercheurs, des théologiens de tous bords pour qu'ils viennent apporter leur contribution à cette discussion qui aura des intérêts pour le pays, pour le Rwanda évidemment, mais qui, je crois, servira aussi dans d'autres contextes de conflit ou post-conflit qui peuvent s'inspirer de ce que nous allons faire.
Les génocides dépassent aussi la dimension seulement théologique. Mais pour votre conférence, vous avez choisi plutôt la dimension théologique. Pourquoi pas aussi avoir choisi, par exemple, la dimension socio-anthropologique? C'est une question de curiosité, bien sûr.
Je crois que même si la conférence est théologique, hein, ceux qui viennent ont d'autres capacités. Nous avons parmi nous des anthropologues. Il y en a qui vont apporter une dimension économique aussi. Et personnellement, je crois que je suis fait d'une étoffe à trois. Il y a la théologie morale. Il y a les finances que j'ai faites. Il y a aussi l'anthropologie, une maîtrise en anthropologie. Et je pense que ces éléments entrent en jeu d'une façon ou d'une autre. Et même si c'est une conférence théologique, mais je crois que nous venons tous avec des bagages d'autres disciplines que nous avons acquises dans notre formation.
L'expérience du Rwanda peut servir de leçon aussi à d'autres. Vous l'avez dit, que ce qui touche à un pays touche à toute l'humanité, à toute la société humaine. Est-ce que comptez-vous publier les résultats de cette conférence pour que les autres puissent en profiter?
Oui, je crois que tous ceux qui ont été invités à participer, on attend d'eux qu'ils apportent leur dissertation, leurs écrits, et de ces écrits, nous allons les mettre ensemble. On produira un livre collectif pour justement rendre accessibles les pensées échangées et proclamées dans cette conférence.
Un mot de la fin, Père Jean-Baptiste Ganza.
Oui, un mot de fin, c'est d'abord une satisfaction de la façon dont cette grande rencontre a été organisée, et je suis très content de voir comment des bienfaiteurs ont accepté de participer même financièrement pour le succès. Et je pense que le pays, mon pays, va être fier et content d'apprendre ce que nous allons partager. Je crois que même les politiciens peuvent s'inspirer, j'espère, des idées, bien que théologiques, qui vont être produites dans cette conférence.